Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et 8h49 sur Sud Radio, les débats sont ouverts avec vous, bien sûr, 0826-300-300 pour agir à l'actualité, nous donner votre avis, ce dont vous voulez parler, en tout cas ce matin avec nos éditorialistes qui sont là, à commencer par Christine Bouillot. Bonjour Christine.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et puis avec nous également Éric Revel et Thierry Guerrier. Rebonjour messieurs.
Bonjour.
Eh ben bonjour.
Alors, on en parlait tout à l'heure avec justement avec Thierry Guerrier sur son édito politique. Alors, vous avez peut-être râlé un petit peu, mais je voudrais qu'on revienne au moins quelques secondes sur cette vidéo à l'Élysée entre Emmanuel Macron et les deux youtubeurs Mike Fly et Carlito, avec Thierry Guerrier qui nous disait d'un côté il y a un coup de com réussi vis-à-vis des jeunes, mais en même temps, pour pas faire du Macron dans le texte, en tout cas en même temps, il y a quelques lacunes, notamment celle de croire que finalement les vues ou par les jeunes, ça va permettre d'avoir des électeurs en plus. Christine Bouillot, déjà par rapport à cette vidéo, est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de s'afficher de cette façon-là, au cœur de l'Élysée, pour faire des vidéos comme ça?
Moi, je me souviens d'un président de la République qui faisait de l'accordéon chez lui.
Oui.
Vous vous souvenez pas?
Giscard.
Voilà, pour paraître populaire, parce que son image était décalée par rapport à ça. Autre anecdote, moi j'ai...
Un autre qui s'est mis, vous vous souvenez, ce casque sur les oreilles, sur la pelouse de l'Élysée, qui s'appelait
oui.
Chirac, quand même.
Hein. Oui, oui. Oui, ou qui a reçu pour la première fois en chantant I Will Survive et en criant Zizou président en 98. Bon, je dirais rien de neuf. Moi, j'ai croisé avec Toulouse ce week-end énormément de jeunes dans la rue. Alors, puisqu'ils ont fait la fête, comme ils ont pu avec la victoire du Stade Toulousain, c'était très festif. Mais beaucoup ont vu effectivement cette vidéo. Ça a touché effectivement le cœur de cible. Donc la touche, en tous les cas, l'exercice est réussi. Après, je rejoins Thierry. Je suis toujours un peu... on sait que les jeunes, ce sont pas forcément les premiers à aller dans les urnes. On sait aussi qu'ils s'intéressent de loin à la politique tant qu'ils ne sont pas vraiment dans la vie active, quoique maintenant ça commence à changer avec les questions d'environnement, puisqu'ils étaient quand même massivement dans les rues pour pouvoir parler de ce qui les inquiétait pour les années futures. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y a effectivement un électorat, ou en tous les cas une clientèle électorale à aller chercher, et tous les partis le font. Regardez bien le RN de l'autre côté, qui va chercher des youtubeuses ou des jeunes influents sur les réseaux sociaux pour attirer aussi un électorat beaucoup plus jeune. Donc il y a rien d'exceptionnel. L'exercice en lui-même, peut-être effectivement dans les ors de l'Élysée, peut paraître pour certains un peu un sacrilège. Moi, j'ai pas trouvé l'exercice raté. Je trouve que les jeunes ont le droit aussi qu'on s'adresse à eux d'une manière un petit peu différente. Alors on va pas dans le fond des dossiers, ça c'est clair. Mais voilà, c'est pas c'est comme tous ces nouveaux réseaux sociaux sur lesquels vont les politiques, les TikTok, tous ces nouveaux réseaux. Je reste quand même persuadée que on va revenir aussi à la, et on revient toujours à la bonne politique à l'ancienne. J'ai du mal à croire que ça va complètement bouleverser la donne sur le plan politique.
Bah, celui qui est pas mal sur les réseaux sociaux, c'est Éric Revel. Vous avez regardé la vidéo, vous Éric, vous avez été séduit par cet exercice ou pas du tout?
Oui, j'ai regardé. Alors, séduit non, parce que je suis pas dans la cible, puisqu'on parle de cible. Je suis un peu plus âgé que nos deux youtubeurs.
C'est une vidéo discriminante, en fait, d'une certaine façon.
Alors bon, rien de neuf sous le soleil, tout ça est vrai. Tentative peut-être de ramener au vote une jeunesse qui souvent vote moins que les aînés. Bon, tout ça est dit, tout ça est vrai. Sur le reste, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que voilà, il y a deux France qui me semblent s'opposer, qui paraissent un peu pas réconciliables. Vous voyez, il y a la France émergente, jeunesse, à laquelle je comprends pas forcément toujours grand-chose, mais qui est bien présente. Puis il y a une France, vous parliez des réseaux sociaux, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Il y a cette autre France qui est un peu ringardisée, qui est montrée du doigt, qui passe pour être une France réactionnaire, mais en fait, qui est une France qui ne veut pas disparaître non plus. Donc, je pense que le président de la République, qui appartient plutôt à la première catégorie, il a 40 et quelques années, il joue à fond cette carte-là, à la fois pour ramener dans le vote une jeunesse qui vote peu, mais aussi pour essayer de marquer des points de ce côté-là. Certains vous diront c'est horrible, c'est avilissant pour la fonction de chef de l'État. D'autres vous diront écoutez, il fait de la politique politicienne. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, on parle pas de la France, on parle pas du projet, on parle pas de programme. Tout ça est passé un peu Et puis regardez sur les réseaux sociaux quand même, sans en faire une fixette, mais toutes ces situations d'extrême violence qu'on vit pratiquement au quotidien dans des centres ouais. commerciaux. Vous avez vu ça hier en région parisienne, ailleurs sur un stade de foot, je crois que c'était à Créteil. Bon, c'est extrêmement violent. Puis d'un autre côté, on a à présent un public qui fait risette et qui semble avoir déjà oublié que la pandémie était là il y a encore quelques semaines, que le pays est plongé dans des situations de violence extrême. Tout ça semble un peu passer au second plan. Bon, alors si c'est ça faire de la politique, effectivement, j'appartiens à la France à l'autre catégorie, quoi.
Thierry Guerrier, justement sur cette vidéo, est-ce que ça montre pas aussi, comme le disait là à l'instant avec Revel, est-ce que ça va pas tendance à diviser encore plus la France en deux?
Non, diviser, je crois pas. Je crois qu'Éric a raison sur le constat qu'on peut tous faire sur cette idée qu'il y a deux France qui s'affrontent. Pour autant, je pense que le vrai sujet, c'est comment les jeunes eux-mêmes réagissent ou vont-ils réagir. Et c'est leur faire injure que de considérer qu'ils n'auraient pas leur capacité d'analyse. Les mêmes sont capables, comme j'ai essayé de le dire ce matin, de juger sympathique, cool, dans leur code, un président de la République qui finalement est assez jeune et moderne à sa façon. Et les mêmes peuvent être très exigeants quand, et Éric a raison, quant à la nécessité d'avoir un projet, une vision et des résultats. Et c'est là-dessus qu'au bout du compte, malgré tout, ils vont juger le président de la République tous, ce que fait le président de la République, et s'il a de l'humour, et s'il est capable d'entrer dans ses codes que je ne comprends pas forcément, mais tout ce qu'il fait est politique. Et à cet égard, il y a des exigences, et on n'y apporte pas réponse. Donc on va voir comment il va se comporter, parce que ce qui est clair, c'est qu'il a lancé sa campagne présidentielle hier.
Voilà. Oui, Éric Revel.
Oui, non, je disais, on peut même aller plus loin, parce que Thierry a raison, tout est extrêmement politique. Moi, je me suis fait une réflexion, c'est que l'affaire de Youssoufa, ce rappeur qui doit incarner l'hymne des Bleus pendant l'Euro. Non, mais moi, je me suis demandé dans quelle mesure, si vous voulez, ce choix, c'est qui n'est pas un choix anodin et isolé de la Fédération Française de Football, évidemment, si ce n'est pas une façon d'exciter le vote Rassemblement National, et d'ailleurs, le Rassemblement National a mordu à la leçon, et ainsi, parce qu'en fait, quel est le but d'Emmanuel Macron? Il n'en démord pas, il veut absolument avoir Marine Le Pen en face de lui au second tour, puisqu'il est persuadé, lui, qui va la battre. Et agiter l'oripeau Youssoufa, c'est une façon de faire monter le vote Rassemblement National et de sanctuariser l'idée qui se fait de ce second tour de l'élection présidentielle.
C'est en un mot pour terminer, oui, Thierry Guerrier.
Oui, je pense qu'en plus, c'est pour ça, Éric, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans le camp des grincheux. Je préfère qu'on me dise OK boomer, parce que j'aurais critiqué le manque de politique.
C'est ce qu'on met aussi, oui. OK boomer.
Oui, c'est ça. Je crois qu'au fond, il faut laisser aux jeunes, il faut leur faire confiance. Et les jeunes sont capables, et plutôt que de les ramener dans un camp de façon très binaire, ils sont capables de nuances et capables de comprendre à la fois que bon, très bien, oui, ok, on a un président qui a une mécanique intellectuelle brillante, qui est sympa, ok, très bien. Maintenant, la réalité, c'est qu'est-ce qu'il fait sur le plan, et qu'est-ce qu'il dit sur le plan politique.
Et puis dans les sondages, Thierry, les 18-34 ans votent, je crois, à 20-25% à son moment national, faut pas l'oublier.
Les 18-25 ans le trouvent sympa à 51%, c'est-à-dire l'apprécient à 51%. Il ne vote pas pour lui, mais bon, et c'est exactement ce qu'il cherchait.
Allez, on va. Oui, Christine Bouillon, en un mot. Oui.
En un mot, simplement, il s'adresse aussi à une jeunesse qui a été confinée depuis 15 mois et qui s'en souvient et qui s'interroge beaucoup sur la suite. Donc, il y a aussi un message, on va dire, souriant et d'optimisme qu'il essaye de donner. Après, il faudra des actes pour eux. Très sincèrement.
Merci beaucoup en tout cas, vous restez avec nous. Christine Bouillot, Éric Revel, Thierry Guerrier. On se retrouve dans un instant avec vous. 0826-300-300. Et puis avec notre invité, professeur Pierre Tadevin, qui est chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. On parlera du patron de Moderna qui nous dit faudra une troisième dose de vaccin sans doute pour les personnes à risque d'ici la fin de l'été. On verra ce qu'il en est exactement avec notre invité, puis avec nos éditorialistes. Et puis vous, bien sûr, je le rappelle, 0826-300-300. À tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et 9h. 9h11 dans le grand matin de Sud Radio. Dans quelques minutes, dans quelques instants, un ouvrage très intéressant sur les espions du Vatican. Oui, on va pas parler de religion ce lundi de la Pentecôte. On va parler effectivement de ces espions du Vatican. Donc plus du côté politique, du côté coulisses du Vatican avec donc cet ouvrage de Yves Odonik de Noël qui sera avec nous dans une petite dizaine de minutes maintenant. Mais tout d'abord, eh bien, notre invité, eh bien, c'est le professeur Pierre Tadevin. Bonjour.
Bonjour.
Pour un tout autre sujet, effectivement, vaccination en l'occurrence, vaccination des 12-17 ans d'ici la fin août, troisième injection pour les personnes à risque dès la fin de l'été, ce sont les recommandations faites hier par le patron français de Moderna dans le journal du dimanche. Professeur Pierre Tadevin, vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Elle se justifie déjà, selon vous, cette troisième dose pour les personnes à risque avant même l'automne prochain, finalement ?
C'est un peu prématuré et c'est surtout un peu étonnant de l'entendre de la bouche de la personne qui commercialise le vaccin, mais c'est attendu. On sait que la protection ne sera pas très longue et qu'il faudra refaire une troisième dose à un moment ou à un autre.
C'est-à-dire qu'au-delà de la communication finalement commerciale, en termes de santé, pour le coup, il peut y avoir des explications, ça peut se justifier ou alors ça vient beaucoup trop tôt ?
Non, ça peut tout à fait se justifier. Il y a déjà une population pour laquelle on recommande une troisième dose, qui sont les gens très immunodéprimés, comme les greffés d'organes ou les gens qui ont des cancers sous chimiothérapie. Et pour la population suivante, par exemple les gens dans les EHPAD, ce ne serait pas du tout délirant de les vacciner à la fin de l'été, avant le risque de quatrième vague, par exemple.
Parce que justement, il y a des risques pour ces personnes-là que les anticorps ne tiennent pas suffisamment longtemps, qu'ils fassent faire des rappels très régulièrement, finalement.
Oui, ce ne sera peut-être pas des rappels très régulièrement, mais consolider ce qu'on a obtenu avec les deux premières doses par une troisième dose quelques mois plus tard, ça pourrait tout à fait se justifier. Et ça, c'est les études qui le diront, ce n'est pas le patron de Moderna.
Bien sûr. En l'occurrence, alors chacun y va de son petit commentaire, parce que du côté de Pfizer, on parlait d'une éventuelle troisième dose à l'automne prochain. Là, on parlait de l'ensemble des publics, hein, pas seulement des personnes à risque. Est-ce que là, ça veut dire que, par exemple, comme la grippe, il faudrait pour envisager, en tout cas, pour ce Covid, d'avoir justement une forme de rappel, en l'occurrence tous les ans, chaque année déjà.
C'est vraiment possible, mais on ne sait pas très bien. Tous les patients des grandes études ont été inclus à peu près l'été dernier, et depuis ils sont suivis. Donc on va savoir à quel moment il faut renforcer l'immunité en les réinjectant.
Par rapport aux adolescents de 12 à 18 ans, le gouvernement semble vouloir accélérer là aussi les choses. Il y a urgence, selon vous, à les vacciner justement au plus vite ?
Il n'y a pas urgence, mais c'est vrai qu'on va arriver bientôt en France à un moment où on aura vacciné probablement tous les adultes qui sont d'accord pour le faire. Vous savez qu'on a aussi beaucoup d'hésitants, voire d'opposants. Et ensuite, augmenter la couverture vaccinale, ce sera toujours du bénéfice avant le risque d'une quatrième vague. Plus on aura vacciné de monde, moins le virus pourra s'installer en France. Donc, passer aux adolescents à ce moment-là, à ceux qui sont volontaires et d'accord pour le faire, ça nous aidera à contrôler l'épidémie.
Parce que par rapport aux études qu'on a jusqu'à présent, on sait qu'entre 12 et 18 ans, il y a des risques importants de contamination. Ça s'est vérifié, c'est consolidé à ce niveau-là ?
Alors, on a l'impression qu'avec le variant initial, celui de Wuhan, les enfants passaient vraiment à travers et jouaient peu de rôle dans la transmission. Et avec le variant britannique, on a vu un rajeunissement de la population moyenne et un risque majoré chez les plus jeunes. Donc, ils ont peut-être joué un rôle important dans la troisième vague en termes de transmission.
À ce jour, près d'un tiers des Français ont reçu une première dose. Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, souhaite qu'au moins, dit-il, 90% des adultes soient vaccinés. On a du mal à s'y retrouver finalement dans ces chiffres sur cette vaccination de pourcentage. Certains disent 75, 80, d'autres 90. À votre avis, c'est quoi le chiffre finalement le plus partagé justement pour se dire que la France sera vaccinée à ce seuil-là?
Ouais, c'est difficile de donner un seul chiffre parce qu'il n'y a pas un pourcentage en dessous duquel ça sert à rien et au-dessus duquel on a gagné la partie. Chaque 10% gagné finalement fait gagner de la robustesse, de la solidité face à ce qui nous attend. On sera plus solide vis-à-vis des variants si on est à 80-90% de vaccinés, par exemple, que si on est à 60.
Dernière question, vous craignez vous-même une quatrième vague à l'automne prochain ?
Je trouve que ce qui s'est passé les dernières semaines est très rassurant. On a réussi à mieux vacciner, ça a dégringolé à l'hôpital. Donc je ne suis pas très inquiet, mais il faut garder ça en tête et il faut se préparer au mieux pour que ça n'arrive pas.
Merci en tout cas pour votre éclairage, professeur Pierre Tadevin. Je rappelle que vous êtes le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, également président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous.
Bonne journée. Au
merci,
revoir.
Merci à vous. Allez, on poursuit. Bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300 pour bien réagir à l'antenne, partager vos coups de gueule, vos coups de cœur. Et justement, bah, on est avec un auditeur qui nous appelle. C'est Fred, je crois, du Gard, qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour et bienvenue, Fred.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci de me donner la parole.
Avec voilà, grand plaisir.
Oui, pardon.
Avec grand plaisir, je disais tout simplement.
Merci, merci beaucoup.
Vous vouliez réagir sur quel sujet ?
Bah, sur la vaccination, écoutez, moi, je fais confiance à mon corps. Moi, j'ai 43 ans, je suis en pleine forme. Je vois les effets en fait, que ça fait en fait, sur les vaccinations par rapport à tout ce qui peut se dire. Même une sénatrice de Guyane qui dit qu'en fait, deux morts chez ses proches qui sont fait vacciner. Honnêtement, c'est un produit qui est nouveau, qui est en fait en test. Nous sommes pas encore en fin de phase 2. Et quand j'entends parler votre invité là, qui parlait, oui, couverture vaccinale, ici, et que le professeur Raoult dit que notre système immunitaire est 10 fois plus performant que ce supposé vaccin, écoutez, moi je fais confiance à mon corps. J'ai pas peur en fait de tout ce délire en fait. D'ailleurs, le délire en fait, il va jusqu'à ce que les scientifiques britanniques se sont excusés auprès de la population parce qu'on leur a demandé de faire peur à la population.
Donc, en l'occurrence, vous avez déjà été vacciné sur d'autres virus quand vous étiez plus jeune, j'imagine. J'imagine que vous avez déjà été vacciné.
Ah oui, bien sûr,
très jeune.
Mais oui. Le dernier date, ça a été le tétanos.
Ouais.
Parce que voilà, je me suis fait mal à la main et je me suis fait vacciner contre le tétanos.
D'accord.
Voilà, il y a du recul de 30, 40 ans en arrière, donc il n'y a aucun souci là. On n'a aucun recul. Aucun.
Après, sur la question. Alors, sur la question, Fred, par exemple, de l'immunité, justement, collective.
Oui.
Ça, vous dites pas, y a une forme de solidarité à avoir, peut-être avec.
Mais la solidarité, elle est biologique, la solidarité, elle se fait, la solidarité biologique, par la diffusion du virus. Mais quand vous avez le virus.
Parce que là, vous dites, moi, ça va, je suis en forme.
Non, mais c'est pour ça.
C'est pour ça que je me permets de relancer là-dessus.
Vous savez, ce que Véran dit, c'est que le vaccin, le supposé vaccin, n'est pas efficace contre les formes graves de Covid. Donc, en fait, il sert à quoi ? Il faut qu'on m'explique, parce que moi, je vais dire, quand j'entends les autorités dire des choses comme ça, pour moi, il est clair que, en fait, je ne vais pas me vacciner.
Bah, de toute façon, cette réponse-là, on l'aura très rapidement hein, sur l'efficacité du vaccin contre les formes graves. De toute façon, là, on a eu déjà des premiers, on a eu les enquêtes. Bon, on va voir après dans les faits ce qui se passe effectivement dans chaque pays où il y a eu ces vaccinations et voir si le nombre de morts recule.
Regardez, les enquêtes sont vite faites. Aux Seychelles, vaccination de max, augmentation en fait des décès et des cas positifs. Israël, identique. Angleterre, identique, avec variant. Nous allons aux États-Unis, où nous avons 20 États qui refusent toutes les mesures en fait sanitaires. Il y a très peu de cas et la population se sent bien au niveau psychique et peut vivre une vie libre. Alors aujourd'hui, les études, pas besoin d'études, nous avons des cas concrets. On les voit, donc moi, à partir de là, je vais dire... Moi, il faut que les médias, tout ça, arrêtent de faire peur aux gens, parce que là, les gens, ils sont terrorisés. Et regardez, vous savez, par rapport au début de la pandémie, on désinfectait les caddies, les pompes, l'essence, les digicodes des banques. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Mais c'est ce qu'on fait encore beaucoup, hein. Enfin, je tiens à le signaler, parce qu'on s'en rend peut-être moins compte, parce qu'on a le réflexe, mais dans notre vie de tous les jours, finalement, on fait plus gaffe aux gestes. Alors, je sais pas, moi, je vois à titre personnel, vous voyez, je tousse dans mon coude. Je fais même plus gaffe à ça, mais je pense qu'on prend des réflexes aussi sans s'en rendre compte, et notamment sur le gel hydroalcoolique. Et c'est tant mieux. Et après, au-delà du Covid, ça peut aider sur d'autres maladies, d'autres virus. Donc, pourquoi pas? Mais en tout cas, j'imagine que sur la question du jour, vous avez dit, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Non, je ne veux pas, du coup, vous, oui. Fred.
Ah non, sûr que non, merci. Non, merci.
En tout cas, vous aurez eu la parole. Vous aurez eu la parole sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez d'écouter Sud Radio.
Dans la paix et la bonne humeur.
Eh bien oui, effectivement, dans la paix et la bonne humeur. Bien sûr, sur Sud Radio. Allez, dans un instant, la paix et la bonne humeur. Alors, surtout, les coulisses et puis l'espionnage. Dans quelques instants, du côté du Vatican. Oui, les espions du Vatican. C'est le livre d'Yvonique de Noël. Il vient nous en parler dans quelques instants sur Sud Radio. On l'accueille. 9h21, à tout de suite dans le grand matin.